Le livre dont vous allez entendre ici la version sonore s'intitule « Le manifeste des cinq ». Il a été publié dans le Figaro le 18 août 1887 suite à la publication du roman d'Émile Zola « La Terre ». Il se présente sous la forme d'une lettre ouverte à Émile Zola signée par cinq jeunes écrivains proches du grenier d'Edmond de Goncourt. À Émile Zola. Naguère encore, Émile Zola pouvait écrire sans soulever de récriminations sérieuses qu'il avait avec lui la jeunesse littéraire. Trop peu d'années s'étaient écoulées depuis l'apparition de l'Assommoir, depuis les fortes polémiques qui avaient consolidé les assises du naturalisme, pour que la génération montante songeât à la révolte. Cela même que laissait plus particulièrement la répétition énervante des clichés se souvenait trop de la trouée impétueuse faite par le grand écrivain de la déroute des romantiques. On l'avait vu si fort, si superbement entêté, si crâne, que notre génération, malade presque tout entière de la volonté, l'avait aimé rien que pour cette force, cette persévérance, cette crânerie. Même les pères, même les précurseurs, les maîtres originaux, qui avait préparé de longue main la bataille, prenait patience en reconnaissance des services passés. Cependant, dès le lendemain de l'Assommoir, de lourdes fautes avaient été commises. Il avait semblé aux jeunes que le maître, après avoir donné le branle, lâchait pied à l'exemple de ces généraux de révolution dont le ventre a des exigences que le cerveau encourage. On espérait mieux que de coucher sur le champ de bataille. On attendait la suite de l'élan, on espérait de la belle vie infusée au livre, au théâtre, bouleversant les caducités de l'art. Lui, cependant, allait creusant son sillon, il allait, sans lassitude, et la jeunesse le suivait, l'accompagnait de ses bravos, de sa sympathie si douce aux plus stoïques, il allait, et les plus vieux ou les plus sagaces fermaient dès lors les yeux, voulaient s'illusionner, ne pas voir la charrue du maître s'embourber dans l'ordure. Certes, la surprise fut pénible de voir Zola déserté, émigré à Médan, consacrant les efforts, légers à cette époque, qu'on eût demandé à un organe de lutte et d'affermissement à des satisfactions d'un ordre infiniment moins esthétique. N'importe, la jeunesse voulait pardonner la désertion physique de l'homme. Mais une désertion plus terrible se manifestait déjà, la trahison de l'écrivain devant son œuvre. Zola, en effet, parjurait chaque jour davantage son programme. Incroyablement paresseux, à l'expérimentation personnelle, armé de documents de pacotille, ramassés par des tiers, plein d'une enflure hugolique, d'autant plus énervante qu'il prêchait âprement la simplicité, croulant dans des rabâchages et des clichés perpétuels, il déconcertait les plus enthousiastes de ses disciples. Puis, les moins perspicaces avaient fini par s'apercevoir du ridicule de cette soi-disant histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, de la fragilité du fil héréditaire, de l'enfantillage du fameux arbre généalogique, de l'ignorance médicale et scientifique profonde du maître. N'importe, on se refusait même dans l'intimité à constater carrément les mécomptes. On avait des « peut-être aurait-il dû » des « ne trouvez-vous pas qu'un peu moins de... » Toutes les observations de Lévite, déçus, qui voudraient bien ne pas aller jusqu'au bout de leur désillusion. Il était dur de lâcher le drapeau. Et les plus hardis n'allaient qu'à chuchoter qu'après tout, Zola n'était pas le naturaliste et qu'on n'inventait pas l'étude de la vie réelle après Balzac, Stendhal, Flaubert et les Goncourt. Mais personne n'osait l'écrire, cette hérésie. Pourtant, incoercible, l'écœurement s'élargissait, surtout devant l'exagération croissante des indécences de la terminologie malpropre des Rougon-Macquart. En vain, excusait-on tout par ce principe émis dans une préface de Thérèse Raquin. « Je ne sais si mon roman est moral ou immoral, j'avoue que je ne me suis jamais inquiété de le rendre plus ou moins chaste. Ce que je sais, c'est que je n'ai jamais songé à y mettre les saletés qui découvrent les gens moraux, c'est que j'en ai décrit chaque scène, même les plus fiévreuses, avec la seule curiosité du savant. » On ne demandait pas mieux que de croire, et même quelques jeunes avaient par le besoin d'exaspérer le bourgeois, exagéré la curiosité du savant. Mais il devenait impossible de se payer d'arguments, la sensation nette, irrésistible, venait à chacun devant telle page des Rougon, non plus d'une brutalité de document, mais d'un violent parti pris d'obscénité. Alors, tandis que les uns attribuaient la chose à une maladie des bas organes de l'écrivain, à des manies de moine solitaire, les autres y voulaient voir le développement inconscient d'une boulimie de vente, une habileté instinctive du romancier, percevant que le gros de son succès d'édition dépendait de ce fait que les imbéciles achètent les Rougon-Macquart enchaînés, non pas tant par leur qualité littéraire que par leur réputation de pornographie que la vox populi y a attachée. Or, il est bien vrai que Zola semble excessivement préoccupé, et ceux d'entre nous qui l'ont entendu causer ne l'ignorent pas, de la question de vente, mais il est notoire aussi qu'il a vécu de bonne heure, à l'écart, et qu'il a exagéré la continence, d'abord par nécessité, ensuite par principe. Jeune, il fut très pauvre, très timide, et la femme, qu'il n'a point connue à l'âge où l'on doit la connaître, le hante d'une vision évidemment fausse. Puis le trouble d'équilibre qui résulte de sa maladie rénale contribue sans doute à l'inquiéter outre mesure de certaines fonctions, le pousse à grossir leur importance. Peut-être Charcot, Moreau, de Tours, et ces médecins de la Salpêtrière qui nous firent voir leur coprolalique, pourraient-ils déterminer les symptômes de son mal? Et à ces bobiles morbides, ne faut-il pas ajouter l'inquiétude si fréquemment observée chez les misogynes, de même que chez tous les jeunes gens, qu'on ne nie leurs compétences en matière d'amour? Quoi qu'il en soit, jusqu'en ces derniers temps encore, on se montrait indulgent, les rumeurs craintives s'apaisaient devant une promesse, la terre. Volontiers espérait-on la lutte du grand littérateur avec quelques hauts problèmes et qu'il se résoudrait à abandonner une terre épuisée. On aimait à représenter Zola vivant parmi les paysans, amassant des documents personnels, intimes, analysant patiemment les tempéraments de ruraux, recommençant enfin le superbe travail de l'assommoir. L'espoir d'un chef-d'œuvre tenait tout le monde en silence. Certes, le sujet, simple et large, promettait des révélations curieuses. La terre apparut. La déception a été profonde et douloureuse. Non seulement l'observation est superficielle, les trucs démodés, la narration commune est dépourvue de caractéristiques, mais la note ordurière est exacerbée encore, descendue à des saletés si basses que, par instant, on se croirait devant un recueil de scatologie. Le maître est descendu au fond de l'immondice. Eh bien, cela termine l'aventure. Nous répudions énergiquement cette imposture de la littérature véridique, cet effort vers la gauloiserie mixte d'un cerveau en mal de succès. Nous répudions ces bonhommes de rhétorique zoliste, ces silhouettes énormes, surhumaines et biscornues, dénuées de complications, jetées brutalement, en masse lourde, dans des milieux aperçus au hasard des portières d'express. De cette dernière œuvre du grand cerveau qui lança l'assommoir sur le monde, de cette terre bâtarde, nous nous éloignons résolument, mais non sans tristesse. Il nous poigne de repousser l'homme que nous avons trop fervemment aimé. Notre protestation est le cri de probité, dictamen de conscience de jeunes hommes soucieux de défendre leurs œuvres, bonnes ou mauvaises, contre une assimilation possible aux aberrations du maître. Volontiers, nous eussions attendu encore, mais désormais le temps n'est plus à nous, demain il serait trop tard. Nous sommes persuadés que la terre n'est pas la défaillance éphémère du grand homme, mais le reliquat de compte d'une série de chutes, l'irrémédiable dépravation morbide d'un chaste. Nous n'attendons pas de lendemain au Rougon. Nous imaginons trop bien ce que vont être les romans sur les chemins de fer, sur l'armée, le fameux arbre généalogique tend ses bras d'infirmes, sans fruits désormais. Maintenant, qu'il soit bien dit, une fois de plus, que, dans cette protestation, aucune hostilité ne nous anime. Il nous aurait été doux de voir le grand homme poursuivre paisiblement sa carrière. La décadence même de son talent n'est pas le motif qui nous guide, c'est l'anomalie compromettante de cette décadence. Il est des compromissions impossibles. le titre de naturaliste, spontanément accolé à tout livre puisé dans la réalité, ne peut plus nous convenir. Nous ferions bravement face à toute persécution pour défendre une cause juste. Nous refusons de participer à une dégénérescence inavouable. C'est le malheur des hommes qui représente une doctrine qu'il devient impossible de les épargner le jour où ils compromettent cette doctrine. Puis, que ne pourrait-on dire à Zola qui a donné tant d'exemples de franchise, même brutale ? N'a-t-il pas chanté le struggle for life et le struggle sous sa forme niaise, incompatible avec les instincts d'une haute race, le struggle autorisant les attaques violentes ? « Je suis une force !» criait-il, écrasant amis et ennemis, bouchant ou survenant la brèche qu'il avait lui-même ouverte. Pour nous, nous repoussons l'idée d'irrespect, plein d'admiration pour le talent immense qu'a souvent déployé l'homme. Mais est-ce notre faute si la formule célèbre « un coin de nature vu à travers un tempérament » se transforme à l'égard de Zola en « un coin de nature vu à travers un sensorium morbide » Et si nous avons le droit de porter la hache dans ses œuvres, il faut que le jugement public fasse balle sur la terre et ne s'éparpille pas en décharge de petits plombs sur les livres sincères de demain. Il est nécessaire que, de toute la force de notre jeunesse laborieuse, de toute la loyauté de notre conscience artistique, nous adoptions une tenue et une dignité en face d'une littérature sans noblesse, que nous protestions au nom d'ambitions saines et viriles, au nom de notre culte, de notre amour profond, de notre suprême respect pour l'art. Cet article est signé par messieurs Paul Bonneton, J.H. Rony, Lucien Descaves, Paul Marguerite et Gustave Guiche.